Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show, les 16h04 sur RMC. Sarah Pitkowski mange une gaufre, c'est l'heure du goûter. Tranquille, prends ton temps. Jérôme Pinault, lui, ça va, il peut parler.
Ouais, pas manger.
Et Eric Dimeco, c'est jamais ce qu'il fait. Et on l'a pas sous les yeux, Eric.
Moi je suis sérieux. Je suis sérieux. Et tu sais, Pierrot, que je prépare les gars, les jades, donc mon festival de l'humour. Donc je suis parrain dans mon village, les Taillades, à côté de Cavaillon.
C'est plein. Voilà,
vendredi, samedi.
Vous avez tout vendu?
Oui.
Guichet fermé.
C'est bien. Franchement, on est content.
Du Patrick Bosso,
du Bosso, du Ziz du Panier,
du Greg.
Du Greg Empêche-moi, Greg Petras, notre
ils sont tous supporters de l'OM Pyro.
Non, mais là, c'est normal.
Ah, là, il n'y a que des supporters de l'OM Pyro. Alors, par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je travaille l'année prochaine pour la venue d'un supporter du PSG qui est très, très bon.
Paul de Saint-Cernin.
Qui est un ami à nous.
Paul de Saint-Cernin,
j'espère qu'il viendra.
Je finis par courir, Eric.
Tu l'aurais fait venir il y a deux ans, c'était gratuit, mais là, plus le temps passe, plus ça va te coûter cher.
Non, non, mais il est bon. Les bons artistes, on les paye. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du jeu.
Vous connaissez Paul de Saint-Cernin.
Le talent, ça se paye, les gars.
Le grand public l'a découvert chez Léa Salamé. Donc, à l'époque, c'était le sniper. Il faut savoir que c'est un coéquipier de Pierrot au Média FC depuis des années, depuis 10 ans. Et j'ai une question moyenne pour toi, Pierrot. Est-ce qu'il est meilleur en humoriste ou en footballeur, Paul de Saint-Cernin?
Très bon joueur.
C'est un bon joueur. Très bon joueur, Paul. Moi, je l'ai vu, moi, à l'époque, jouer.
Donc, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vais dire pour l'instant.
Pour l'instant, foot.
Pour l'instant, foot. Mais je vais aller voir son spectacle.
Par contre,
je vais changer d'avis.
Adrien, il est très beau. Moi, il m'a étonné en spectacle. Allez le voir parce qu'il est très, très beau.
Mais même l'exercice chez Léa Salamé, c'est.
Non, mais il faut savoir plus dur, que ce mec était pigiste, journaliste, et il s'est lancé là-dedans sans rien. Donc,
comment tu rêvais ça avec sa machette, son couteau.
Bravo, Paul.
Comme
bravo,
Vincent,
Paul.
D'ailleurs.
Paul, et j'espère qu'avec toute la pub qu'on te fait, tu ferais un prix pour les galéjades l'année prochaine.
À mon avis, il va t'assassiner. Parce que là, il est dans le vent, là, Eric.
Les amis, on ne les oublie pas quand même, dans ce métier.
Si.
Quand il s'agit d'oseille, les amis, tu sais.
Vincent, seigneur. Voilà, il est venu l'an dernier.
Cadeau, Vincent.
Seigneur.
Vincent, c'est seigneur.
Parce qu'il ne voulait pas que ça apparaisse dans le. Non, pardon. Je plaisante. Bien entendu.
Alors, le programme cet après-midi, donc Paixão Timber, l'OM est-il en danger? Il y a surtout des infos sur Paixão. Hein. Le Super Moscato
Qu'est-ce
Show.
Que tu le dis bien, chef.
Règle le problème. Igor Paixão. Je pense que Florent Germain le maîtrisa encore mieux. L'avenir est-il rose à l'OL? Évidemment, ce soir, c'est un tournant de la saison avec cette qualif en Ligue des Champions. Journal moyen, deuxième édition à 16h45.
J'ai un petit service après-vente d'hier. Ça y est, c'est le retour des services après-vente. Petit cadeau laissé par Stephen Brun dans le Kikadi. L'histoire d'un ballon de foot. Un ballon de foot qui vaut presque 3 millions d'euros.
Stephen Brun, c'est-à-dire celui qui lit ses chroniques.
Celui qui lit ses chroniques.
Ah ouais, d'accord, le même.
Mais il était bien sa chronique, mais il a bien lu.
Ouais, mais ouais, il a bien lu.
C'est un bon liseur.
C'est un liseur.
Vous savez qu'il nous écoute avec des fous,
il va nous défoncer.
Et puis le Kikadi à 17h45 pour gagner votre séjour au domaine du Belvédère dans le Tarn-et-Garonne. Vous envoyez Kikadi par SMS.
C'était bon sur le Kikadi d'hier. J'étais à la maison. 30. C'est dommage.
Ça arrive souvent. Ça s'appelle.
Ah ouais, toi, tu es le style à être bon, mais quand tu es à la maison, toi, j'ai l'impression.
C'est le syndrome Julien Lepers. C'est-à-dire que, question pour un champion, quand tu es chez toi, tu as toutes les réponses, et puis quand tu es face à Julien Lepers, il n'y a plus rien.
Tu es un peu le Julien Lepers.
Non, c'est Adrien. Il vous impressionne, Adrien.
Oui.
Par son charisme et sa carrure.
Oui.
Yes,
je le perds.
Allez, tout de suite, la grande braderie continue à Marseille.
Un prix imbattable attire par dizaines les Marseillais.
De faire redonner le blason à cette ville et ce club.
Le contexte inflationniste n'épargne personne.
Il risque d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Exactement. Tout est bradé jusqu'à moins 70%.
Alors, en ce mois de mai, entre les ponts et les trajets, pensez à votre porte-monnaie.
Une initiative bienvenue pour cet octogénaire.
On a besoin de redonner le blason.
La grande braderie se tient au dock de Marseille jusqu'à dimanche soir.
Dans ce coin-là, c'est une fête de village, une vraie...
L'occasion de se faire plaisir tout en étant solidaire.
Et je m'en souviendrai toute
Moscato.
Oh non,
il va
en réalité, non mais je suis désolé, ça s'appelle de la paresse. Quand Suzanne, elle met toujours ça. Non, c'est de la paresse.
Non,
elle a pas envie de travailler. Elle recycle les trucs de la veille.
Et dis-moi,
c'est de la paresse. Moi je le dis.
Basile Boli redonnait souvent le blason du coup pendant les matchs.
Mais lui redonnait après. C'était notre boîtier à nous. Voilà, c'était notre
ingénieur. Ils ont fait des échanges. C'est échange de blason.
Je te redonne.
Tu me l'as dans une semaine, le mercato est terminé. L'OM n'a pas encore recruté. L'OM doit toujours vendre et ça s'accélère. Et évidemment, le problème, c'est que dans ces cas-là, ce sont les meilleurs joueurs qui sont ciblés. Paixão, Timber, l'OM est-il en danger? Le super Moscato Show règle le problème. Et pour intervenir dans l'émission, il y a le 32-16. Vous parlez en direct à Eric, à Sarah, à Jérôme. Il y a Twitter, hashtag RMC Live. Et une nouveauté depuis l'année dernière, WhatsApp 0612 424 424.
D'ailleurs, tu lis pas tous les messages.
Je vous lis un vrai message pour vous dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, bon, c'est moi qui choisis si je relais ou pas. Comment vous faites pour supporter ce vieil d'Adrien? Eric, gifle-le.
Ben non, mais il y a distance, Eric.
Ce vieil.
Mais merci, comment il s'appelle?
Ça, c'est vrai, merci.
Merci, Yann.
Il aurait pu dire ce gag, mais il a dit.
Tu ne fais jamais draguer sur WhatsApp des messages, Piron?
Ah, mais je relis pas. Je relais pas tous les messages, justement.
Mais il n'y a que toi qui as le pouvoir de lire les WhatsApp. Voilà.
Tu m'étonnes. Il y a Benoît Boutron dans Antenne sans flamme. Il y a Estelle dans Estelle Midi.
Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Quoi.
Exactement.
Vous faites ce que vous voulez.
Bah après, j'ai édulcoré le message. Il y avait deux, trois petites pépites en plus. Hein, ouais.
Allez, on les salue.
On imagine. Alors, les infos sur Quentin Timber, je vous les relais, ce ne sont pas des infos RMC Sport. Non, mais alors, soyez attentifs.
On est attentifs.
Il y a des infos sur lesquelles on peut en dire plus, d'autres moins. Quentin Timber, ce ne sont pas des infos RMC Sport, mais certains médias font part d'un intérêt avancé de Crystal Palace. Pour Paixão, là, en revanche, on a nos infos. L'intérêt de Sunderland est réel. Et Fabrice Hawkins nous confirme que le joueur et le club ont trouvé un accord. Donc maintenant, il faut s'arranger avec l'OM. L'autre information qu'on vous donne, c'est que si Paixão part, ça ne suffira pas encore pour faire une première arrivée. Il faudra d'autres départs d'ici mardi. Et quoi qu'il arrive, il ne devrait, ça c'est quand même pas très réjouissant, y avoir que des prêts dans le sens des arrivées. Il ne devrait pas y avoir de contrat signé pour une arrivée avant mardi. D'éventuels prêts, ça c'est possible. Mais encore une fois, il faut d'abord un départ de au moins deux joueurs. Et donc, le plus chaud, c'est Paixão. Alors évidemment, c'est pas les deux noms que vous auriez aimé entendre, Jérôme, Eric et tous les supporters de l'OM. Est-ce que ton club est en danger, Eric?
Non mais on est en danger depuis la fin de la saison dernière, donc on la connaît l'histoire maintenant. Moi je peux pas avoir mal plusieurs fois de quelques jours d'intervalle. Voilà, puis c'est un peu comme la je vais pas raconter, c'est pas grave. Je vais pas aller sur ce terrain là. Mais j'allais dire une grossièreté, donc on n'y va pas.
Pas de sachet,
donc mais on connaît la situation depuis la fin de saison dernière. On a joué au poker menteur en plus, c'est même pas le poker normal, on a joué au poker menteur, on a perdu, mais maintenant on assume. Donc alors ceux qui vont assumer, c'est pas ceux qui ont joué, mais c'est comme ça, c'est le monde du football est comme ça. On va perdre des joueurs. Hier je parlais dans mon cri de gueule ou dans mon cri du cœur, je sais
bien,
plus. C'était bien, c'était pas lu, ça sortait les tripes. Je parlais de ce que fait Lens ou de ce qu'a fait Lyon aussi l'an dernier. Ils étaient en grande difficulté. Quand tu as plus d'argent, eh ben c'est pas interdit d'avoir des idées.
Inventif, tu vois,
c'est pas interdit.
Exactement.
Voilà, c'est pas interdit. Voilà, tu sais, il y avait la pub le pétrole. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ben là, on n'a pas d'argent. C'est pas interdit d'avoir des idées et d'avoir des idées intéressantes et de justement travailler un petit peu plus dans la sérénité, avec peut-être des supporters.
À condition, Eric, d'avoir vendu un deuxième joueur.
Le temps est court, c'est là.
Oui. Non, mais
le danger, il est là.
Bien sûr.
Le premier danger,
non,
est là.
Non, mais le danger, il est là. Écoute, tu sais quoi, à un moment donné, on s'est enflammé les dernières années sur ce projet-là qui était quand même. Voilà, ça t'est arrivé la carotte.
Sauf ma courte.
Voilà. Donc nous aussi, on a été naïfs. Alors peut-être certains moins que d'autres. Eh ben voilà. Maintenant, on va se la manger et peut-être que on va trouver et Bruno va trouver une équipe qui va nous faire plaisir par les valeurs sur le terrain. Alors peut-être qu'il y aura pas des résultats de folie. Mais tu sais, l'an dernier, il y a eu des moments où on a eu honte. Hein. L'an dernier, quand tu sors pas de la poule de Ligue des Champions, quand tu joues un dernier match
matchs pour te qualifier, où il faut prendre un point, ou en tout cas ne pas perdre par 3 buts d'écart, faire ce que tu as fait. Moi, des fois, j'ai eu honte.
Hein.
Donc, ben écoute, tu sais quoi, peut-être qu'avec on aura pas honte. Voilà, peut-être qu'on n'aura pas honte, et peut-être qu'on perdra des matchs parce que ben, les autres sont plus forts. Et écoutons, moi, écoutez, tu sais quoi, j'en ai marre de rêver en début de saison et de prendre des carottes, de voir les mecs faire des n'importe quoi depuis 5 ans. Ça a commencé avec Alexis Sanchez, ça a fini avec Rabiot, voire d'autres, hein, parce qu'il y en a eu plein au milieu, où on s'est sabatté tout seul. Eh ben, on va perdre des joueurs parce qu'on est pauvre, et peut-être qu'on aura une ou deux recrues qui seront géniales finalement parce qu'elles seront judicieuses. Et voilà. Donc, on va faire confiance aux mecs, on va les laisser bosser. Et voilà, j'en ai marre de me flageller, moi, pour le football et pour le club.
Jérôme, est-ce que ton club est en danger ?
Non, mais en plus de ce que dit Eric, j'ajouterais que je vais peut-être être dur, mais Igor Patchaol et Timber, s'ils partent, on va pas dire on a perdu deux légendes de l'OM, quoi.
Non, bah que non, ils nous ont, et l'autre sont arrivés l'année dernière.
Ils sont arrivés tard et ils nous ont pas non plus mis le feu au Vélodrome, la preuve, les résultats de l'an dernier. Donc là, le vrai danger, moi je l'ai dit l'autre fois déjà, la limite, elle est la DNCG et cette limite financière. C'est-à-dire que ça ne passera pas.
L'UEFA, il faut
bien le comprendre.
L'UEFA, c'est le plus gros problème.
Le plus gros problème. Et ça passera pas. C'est rigide comme la justice. C'est-à-dire que il faut que tu aies des comptes et que tu rendes le compte qu'on t'a demandé de rendre.
Ton engagement.
Basta. Donc il faut. Et ma courte, sa position, elle est simple. On a été mauvais avec d'énormes dépenses. Bah, si on est mauvais avec moins de dépenses, moi ça me va. Et logique, quand t'es chef d'entreprise. Et après ce que dit Eric, moi je préfère avoir une équipe diminuée de Patchaol et Timber avec Genesio qu'avec tous les joueurs. Et avec Abby Bay, tu vois. Donc, je pense qu'on sera de toute façon meilleur.
Roberto De Zerbi, hein.
Et Roberto, il n'y a pas de promesse. Autres, hein. Pour l'instant, Bruno Genesio dit, je ferai avec les joueurs que j'ai. Il y a eu le cas Holberg, il a joué avec parce qu'il l'avait à disposition. Et il fera avec les joueurs qu'il a. Et ça va être une très bonne équipe. Moi, je crois quand même.
Ça reste une équipe top 5, hein, même sans.
Je pense pas que c'est pas, il n'y a pas de panique. Moi, la seule peur que j'ai, c'est qu'on n'arrive pas à remplir ce cut. Et que le club sombre et qu'il y en ait des gros
financiers.
Le reste, eh ben, s'il faut attendre une saison de plus, de toute façon, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on attend de faire des exploits et on n'en a pas fait. Donc, autant attendre sereinement. Mais par contre, ce cut de l'UEFA avec cette sanction financière, c'est une épée de Damoclès. Pour avoir, quand j'ai géré l'équipe, moi, c'était la DNACG,
ils
te disaient, c'est maintenant et dans une semaine, on se revoit, il faut qu'il y ait des choses qui aient changé. Tu ne dis
sinon
pas.
T'es mort.
Non, attendez, donnez-moi. Non, parce que non, ça marche pas. Là, ça va tomber. Et si ça tombe, c'est une cata pour l'OM. Alors moi, je préfère que Patchaol, Timber et d'autres s'en aillent, mais que mon club joue au niveau qu'il jouera l'an prochain.
Sarah Pitkowski.
Que dire qu'il y a un exemple. Je vais pas redire ce que vous avez dit, mais il y a un exemple d'un club qui a réussi à s'en sortir l'année dernière. C'est Lyon. Lyon qui avait aussi cette épée Damoclès, qui avait le couteau.
Il l'a toujours, hein.
Oui,
on en parlera à 17h.
Qui l'a toujours, mais qui a quand même fait des choses remarquables avec le couteau sous la gorge. Donc on peut se dire effectivement que, comme le disait Eric très justement, il va falloir avoir des idées parce qu'il y aura pas d'argent.
Mais ça, Greg Lorenzi en a avec Genesio, il en a. Moi, je suis moins inquiet.
Oui, et puis de toute manière, quand tu es dans de la période du panic buy, forcément, c'est tes joueurs qui sont un peu en forme en tout début de saison qui vont partir. On va pas aller te chercher Balerdi, hein. Donc c'est bien ça le problème.
On dit que tu veux, quoi.
Bah, tu vois, même si tu le donnes, il y a personne qui en veut. Donc en fait, bah oui, mais Patchaol, c'est celui qui est le.
Il est bankable.
C'est le plus en forme aujourd'hui. Ouais. Il fait un super début, donc Pio. Forcément que ceux qui veulent faire une bonne affaire, et ben tu regardes.
Ils savent que Marseille est en difficulté.
Les gens sont ça. Après, il ne faut pas qu'ils partent tous. On sait qu'on en parlait lundi. C'est Amine Gouiri et Aguerd. S'il peut, il peut les garder. Après,
le discours de Macourt. Ils sont pitié Macourt.
Je pense que Macourt,
le propriétaire, il n'a plus rien à faire des considérations tactiques et des volontés de Genesio. Et je pense qu'on sous-estime même l'importance de, comment dirais-je, de l'énervement de Macourt.
Bien sûr. Il doit être énervé après lui aussi, quand même.
Bien sûr, la situation, c'est, je caricature, hein, s'il y a une offre qui va pour Gouiri, il va dire à Genesio, à Lorenzi, les gars, allez, Gouiri, on vend. C'est parti. On s'en fiche de qui sera l'attaquant de l'OM.
Bah, je pense que moi, je veux vendre. Aucun joueur de l'OM n'est
Né intransférable. Je pense qu'ils sont tous transférables jusqu'au moment où ils arrivent à ce cut d'équilibre.
Et après, on en débattra,
où tu peux avoir, comme dit Eric, tu peux aller les cuisses propres, voir l'UEFA et dire voilà, on
comme,
rend.
Comme dit Eric, parce que les supporters non, après, souvent faudra... dit c'est la faute de la
bien
direction
sûr,
d'avant.
Non,
la direction
sûr.
Est la même depuis 10 ans à l'OM. Hein. Le propriétaire, le patron, c'est McCourt. Hein.
Mais il leur prend combien voulait... Il y a 20 millions. Comment dire, il y a une proposition de 20 millions pour Pacquiao. Il faudrait encore. Il faudrait une vente à combien de millions pour que ça s'équilibre s'il faut un deuxième joueur? Il faut encore 20 millions?
Plus.
10, 15?
Plus.
Ouais, parce que le chiffre pour le GC Nice, on l'avait, on les ont demandé de faire des économies, on l'a. Mais le chiffre pour l'OM, on n'a pas exactement le chiffre. On n'a pas le chiffre exact.
Le problème de Pacquiao, c'est que ça ne fait pas énormément baisser la masse salariale, c'est pas celui qui a le plus gros salaire. Donc c'est pour ça aussi que ça ne règle pas tous les problèmes.
Le plus gros salaire, c'est
celui qui joue. Mais Aguerd, il est toujours joueur de l'OM.
Oui,
bien
sûr.
Il est là.
D'accord.
32-16, l'OM est-il en danger? Nous accueillons Laurent au 32-16. Salut Laurent.
Salut Laurent.
Bonjour, monsieur.
Laurent.
Salut Laurent.
Bonjour. Salut Laurent, supporter de l'OM. Hein.
Ouais.
Et alors, quand tu entends Timber, Pacquiao attaquer sur le marché de transfert.
En fait, je vais même pas parler de. On va parler de monsieur McCourt qui, le 10 avril, quand il présente monsieur Richard, nous dit que l'OM est un des clubs les plus stables financièrement. Mmh. Il nous prend pour une dinde. Il nous prend tous pour des dindes. Parce que le monsieur, c'est. C'est soit la faute de Jacques-Henri Hérault, c'est la faute de Longoria, c'est la faute de Benatia, c'est la faute de tout le monde, c'est pas de sa faute.
Alors, là, je vais te dire pourquoi, pour le défendre, ce qu'il dit n'est pas faux.
On le défend plus. Au bout d'un moment, quand t'es une dinde et que tu donnes des millions et des millions, au bout d'un moment, c'est ta faute.
Ok, alors tu peux le penser. Maintenant, Laurent, il faut avoir conscience d'un truc, c'est que quand il dit l'OM est un des clubs les plus stables financièrement, c'est grâce à lui.
Il comble.
C'est-à-dire que chaque année, les déficits ont été comblés par l'action. Non, attends. Laisse-moi finir et je te redonne la parole. C'est dans une entreprise en France, si tu es déficitaire et que ton actionnaire comble le déficit, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que fait McCourt depuis qu'il est là. Et ce que ne font pas les propriétaires actuels de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, Marseille est dans une meilleure situation d'un point de vue financier que l'OL grâce à Franck McCourt. Tu peux lui reprocher des déficits de direction si tu veux, mais financièrement, heureusement que vous l'avez.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un propriétaire comme McCourt, moi, mes deux clubs de cœur sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a de l'oseille, qui paye. Et par contre, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que c'est peut-être moins vrai à Nantes. Mais quand Longoria ou Benatia font signer Højbjerg et on lui donne 500 patates par mois, c'est pas validé par McCourt. Il valide pas tous les papiers.
Ça devrait l'être.
Dans un vrai club, ça sera peut-être le cas dans le futur. Et peut-être qu'on va retrouver cette stabilité.
Continue, Laurent.
Donc aujourd'hui, on nous dit qu'on a besoin de faire des économies. On prend Lorenzi. Très bien. Pourquoi McCourt demande à une boîte d'agence d'être sur tous les deals?
C'est peut-être une erreur.
Lorenzi, il sert à quoi? Non, c'est encore une erreur. C'est pas une erreur.
Non, mais c'est pas.
C'est encore une erreur. Donc au bout d'un moment, quand on fait plein d'erreurs, et ben comme ils disent, t'as mis 300 millions dans des canassons. Eh ben, il est en train de vendre les ânes que Benatia, Zubizarreta, qui a acheté pendant 5 ans. Il a mis 5 ans à Strootman, qu'on a payé 40 millions. On a fait la même erreur avec Kondogbia. On a fait la même erreur avec Højbjerg. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, Feyenoord, mais ils doivent nous prendre pour des dindes. Ils ont mis 10% de plus-value.
Mais ça, tu le mets sur le compte de Franck McCourt.
On vend sans plus-value, nous.
Oui, mais ça, c'était le système Longoria, Laurent.
Non, mais à la limite, il ne doit pas le laisser perdurer, le système Longoria. C'est ça qu'on reproche.
Parce qu'il n'est pas assez là.
Pacquiao qui est en forme, on se rend compte qu'ils vont vendre Raw. Donc, nous, on vend à un club anglais qui, soi-disant, explose les montants de transfert. Ils vont vendre Raw. La Talenta va acheter Raw. Plus cher qu'on va vendre Pacquiao à Sunderland. Malik Fofana, ça fait 2 ans qu'il est en réanimation à Lyon. Ils ont des offres à 35 millions de l'AS Roma.
Ah mais parce que Laurent, ce que je dis depuis 15 jours, c'est qu'il ne faut pas perdre de l'idée que il y a urgence.
Oui.
C'est pas de la rigolade. Il y a urgence. Si on vend les joueurs,
cette situation, t'es pas en position de force.
T'es dans un pop-up où demain c'est fermé. Donc faut vendre maintenant.
Et donc là, tu vends slip et bretelles. Et à la fin de la saison, donc il va y avoir un manque. Et à la fin de la saison, t'as pas Coupe d'Europe. Donc tu fais quoi? Et à l'UEFA, on te demande un nombre minimum de joueurs sous contrat quand même, hein.
Après, il y a quand même une situation, c'est qu'effectivement, je comprends que ça soit très énervant de se dire que tu vends des joueurs moins chers, tu les achètes. Mais le problème, c'est qu'on leur a donné des salaires tellement importants qu'aujourd'hui, quand tu veux revendre le joueur, t'es obligé de baisser ta valeur de vente parce qu'il y a le salaire qui doit être négocié derrière.
Notre auditeur.
Donc en fait, Macourt, il a peut-être fait des erreurs de ne pas gérer le montant des salaires.
Le
problème, c'est qu'il assume ses erreurs aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il doit. C'est-à-dire qu'il a mis de l'argent, il a encore mis 120 millions et il m'a dit maintenant, c'est terminé, j'arrête, je ferme le robinet et on vend. Mais il est obligé d'assumer en tant que lui, chef d'entreprise, des choses qu'il n'a peut-être pas regardées jusqu'au bout, c'est-à-dire valider le montant des salaires mensuels des joueurs.
Eric. Mais notre auditeur a pointé du doigt un truc quand même aussi, moi, qui m'a choqué pendant l'intersaison. Donc on nous a mis dans cette situation-là, et c'est les gens qui nous ont mis dans cette situation-là qui sont chargés de vendre les joueurs de l'OM.
C'est Benatia qui a poursuivi sa mission à titre gracieux pour aider le club. À la demande de la direction, disant aide-nous. Toi, tu sais bien vendre, c'est ta qualité. Aide-nous jusqu'à ce que la nouvelle direction arrive.
On vend bien, on a bien vendu depuis quand? On a bien vendu à l'OM.
Il était sur Greenwood, Benatia. Ouais. Il a participé à la vente de Greenwood.
Oui, après, moi, Eric, pourquoi je défends Macourt, c'est que le montant qu'a rappelé Sarah, il est monumental. C'est-à-dire que chaque année, il y a eu des déficits, mais certains ont été bien moindres. Ouais. Parfois, il a mis 20 millions, ce qui est beaucoup d'argent. Mais 120 pour sauver le club. Donc, c'est dur de dire aujourd'hui, Macourt, casse-toi, Macourt, t'es qu'un nul. Moi, je dis, c'est une aubaine pour l'OM, Macourt.
On dit qu'il faut qu'il a, parce que du coup, il s'énerve. Il faut qu'il assume aussi les erreurs qu'il a faites. Quand tu fais une erreur, que tu achètes une voiture qui a le moteur cassé et que tu l'as pas vu, eh ben derrière tu fais réparer le moteur et ça te coûte des sous parce que tu as pas regardé. Et donc moi, ce que je comprends pas, je veux bien moi que il soit loin, je veux bien tout, et c'est difficile le football quand tu es au milieu du truc. Il faut le rappeler tout le temps. Il y a plus de c'est plus facile de se tromper que de réussir dans le football, surtout quand tu as de l'argent. Donc moi je suis pas plus fort que les autres, mais dis-moi je dis juste un truc, 250 mouvements de joueurs en 5 ans, tu vas pas regarder, tu vas pas mettre le nez dans les côtes, toi, quand même. C'est des sous.
Je vais juste poser une dernière question à Laurent, parce que Laurent, tu dis il faut qu'il s'en aille, mais pour quel projet derrière? Qu'est-ce que t'attends d'un départ de Macourt? Ça donnerait quoi?
Déjà, baisser la masse salariale.
Non, mais pour quel projet derrière? Ça répondra à qui avec quelle ambition?
Qui a envie de racheter l'OM?
Arrêtons de dire qui. On parle.
Non, mais toi, dis-nous quel type de projet tu penses possible.
Qui va racheter l'OM? On a l'impression qu'on parle d'un club de seconde zone.
Non. L'OM sera vendu s'il veut vendre. Mais si c'est pour avoir un projet à la Bordeaux, à la Auxerre.
On y est là.
C'est ça qu'on t'explique. Il n'y est pas parce que c'est un chef d'entreprise et qu'il y a un moment.
En vendant, il va y
avoir un moment. En vendant, il va rééquilibrer et il a mis au pot pour que ça reste la tête hors de l'eau.
Je suis à mon compte. Quand la première année, il faut que je remette 100 euros et que la deuxième année, il faut que je remette 200 euros, la troisième année, je me dis attention, putain, mais c'est fait.
Mais Laurent, c'est le football.
Je te pose une question, Laurent.
Est-ce que tu vois la situation de Strasbourg qui a sauvé la partie financière en vendant à un groupe qui fait de la multipropriété? Est-ce que ça te conviendrait? Genre, l'OM est vendu au propriétaire de United, par exemple. Ça te conviendrait ou pas?
Non, c'est
le problème.
Mais pourquoi il en veut 1,2 milliard? Mais qui lui a mis ça dans la tête? 1,2 milliard! Le mec, il nous fait croire le 12 avril. Qu'on est un des clubs les plus stables financièrement.
Laurent, le problème des prix annoncés, c'est comme tous les clubs, et mes deux clubs de cœur sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que les présidents veulent vendre au prix où ils ont acheté plus qu'ils ont injecté. Mais ce qu'ils ont injecté, ça regarde pas l'acheteur. Donc c'est pour ça qu'il a, mais ces chiffres-là, il veut pas vendre et il vendra pas à ce prix-là. Il en est certain. C'est des effets d'annonce.
Dans un instant, Ousmane Dembélé mis au repos par le Paris Saint-Germain et puis, du nouveau sur les droits télé en France. Peut-être déjà la fin de Ligue 1+, ça, tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show, il est 16h33. À 17h, on va débattre de l'Olympique Lyonnais. L'avenir est-il rose à Lyon? Nous sommes avec Sarah Pitkowski, avec Jérôme Pinault, Eric Dimeco et Adrien Aiguin. Et après l'OM, on parle du PSG.
RMC, le Mosca
Zap.
Alors, une info surprenante hier soir, début de soirée, du Paris Saint-Germain, communiqué officiel, qui a mis le bazar pendant quelques heures avant un retour à la normale. Donc on va prendre les choses dans l'ordre chronologique. 20h30, le PSG envoie un communiqué. Mise au repos toute la semaine d'Ousmane Dembélé. Une information qui n'était pas sortie dans les médias, personne n'avait l'info, et qui a suscité pas mal d'interrogations pour une raison simple, c'est le timing, puisque ça arrive quelques jours après le coaching de Rennes, où Dembélé, mauvais en première mi-temps, est sorti par Luis Enrique, alors notamment dans l'after qui était en direct à ce moment-là, donc il y a eu beaucoup de questions posées. Vérification faite, aujourd'hui rien n'indique un problème entre Dembélé et Luis Enrique. Il y a tout de même, c'est important de le préciser, eu explication entre le coach et le joueur après le match de Rennes. Ils ont pris la décision de mise au repos ensemble. Il ne jouera pas à Lille vendredi. Quand même un gros match de championnat. Et réaction de Martial Bertrand sur WhatsApp. Dembélé mise au repos dès le deuxième match du championnat. Bizarre, non ? Point d'interrogation. Avez-vous toujours des doutes, messieurs, dames, sur le fait qu'il n'y ait pas de problème entre Dembélé et Luis Enrique ?
Qui veut y aller en premier ?
Moi, non, mais moi, pour moi... Non, mais on l'a vu, il n'est pas prêt, Dembélé, là. Ouais. Après la Coupe du Monde, donc les mecs sont rentrés tard. Peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps pour être prêt, et que en n'étant pas prêt, en faisant ce genre de match, peut-être que il risque la blessure, puisque l'an dernier, souvenez-vous, il a été pas mal blessé, hein, en début de saison notamment. On sait comment il fonctionne, Luis Enrique. Tu es dans le move. Tu es présent. Tu es en forme. Tu es dans l'esprit, tu es là, il y a pas de souci. Tu es pas là, tu as un problème, tu arrives en retard, tu es pas en forme, tu as pas la tête à ça. Hop, tu y en a d'autres, et il a un effectif de folie, et surtout cette manière de gérer son collectif a porté ses fruits. Donc il a pas de raison de changer lui, les joueurs. Dembélé, je suis désolé, mais il a été Ballon d'Or grâce à Luis Enrique. Tu me peux pas m'enlever de l'esprit que la saison de et son repositionnement et la fin de saison du PSG, il doit tout au PSG. Oui, pour moi, il doit tout au PSG. De le statut qu'il a aujourd'hui, c'est grâce au PSG et grâce à Luis Enrique. Donc j'espère quand même qu'ils ont la reconnaissance du ventre, ces garçons-là, quand même.
Je pense, oui.
Donc je pense en plus qu'ils l'ont. Et que Luis Enrique dise à Dembélé, écoute, tu sais quoi, moi, Dembélé, au top, je le veux au mois de février, mars, avril, comme l'année dernière. 150, l'an dernier, ouais. Souvenez-vous, hein, l'an dernier, début de saison, c'est catastrophique.
Il s'est remis 4 ans en février.
Il était beau. Voilà, il a eu du mal à digérer sa saison de l'année d'avant, l'intersaison avec ce championnat du monde des clubs, il a eu du mal. Voilà. Et donc, là, Luis Enrique joue sur du velours. Les gars, moi,
après, Eric, la seule question que je me pose à cette question, c'est pourquoi là et pourquoi l'avoir fait reprendre la saison finalement? Si c'est pour un match et demi après, lui dire, on constate que t'es pas en forme, va te reposer.
Tu ne pensais pas qu'il était à ce niveau-là.
Mais ils l'ont vu quand même à l'entraînement. Tu fais des tests.
Oui, mais l'entraînement et les matchs. Oui, mais l'entraînement. Tu sais, les mecs, ils veulent tout jouer. Les mecs, ils veulent tout jouer.
Ils voulaient jouer deux finales.
Ils veulent jouer.
Ça, ils voulaient jouer.
En fait,
ils voulaient jouer les deux titres.
Voilà. Il veut tout jouer. Donc, le mec, tu le fais jouer. Et puis après, tu lui dis, mon garçon, regarde le match que tu as fait. Moi, j'ai même peur pour toi physiquement. Donc, va te faire le foncier, va te faire des tours de terrain, va te faire du.
Ça, c'est la deuxième question que j'ai. Est-ce que ça suffit, 5 jours?
Ça dépend ce qu'il fait. Il a
une semaine.
Une semaine, c'est pas mal.
Le dimanche.
Non, mais une semaine, c'est pas mal. Et ensuite, dans une semaine, il sera pas plein badin comme il l'a été sur les fins de saison, chaque saison, là, les dernières. Mais au moins, tu as un physique pour jouer des matchs de Ligue 1, ne serait-ce que de Ligue 1, puisque on en est là. Et puis peut-être aussi que Luis Enrique veut marquer son territoire. Dembélé, ça, c'est pas toujours comme un autre.
Il y a une petite part quand même de. Écoute-moi bien. C'est moi le patron. Je vais te rappeler à 2-3 phases, et donc tu vas être reposé. Oui, t'es fatigué, pas de problème, tu vas te reposer.
Oui,
c'est le gamin qui fait une crise à ses parents, tu dis écoute, tu vas te calmer, tu vas dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. C'est un peu ça quand même.
Moi j'ai le sentiment qu'en fait Luis Enrique fait la différence entre envie implication et ton état physique. Parce que là, dans cette histoire, il semblerait, enfin, de ce qui est rapporté, c'est que Dembélé dit pour sa défense en disant mais je suis totalement investi, j'ai commencé ma préparation individuelle avant les autres. Donc il a essayé. Donc peut-être que Dembélé a envie, mais que les tests physiques et le rendement, eh ben il y a un décalage aujourd'hui. Et c'est ce que Enrique pointe du doigt en disant mais ok, t'as envie, garde ton envie, mais t'as encore besoin en termes de préparation physique. Avant de basculer comme l'année dernière, il avait fait 4 matchs, il s'est blessé en équipe de France et le PSG l'a récupéré que fin octobre pour la Ligue 1 et les matchs de poule de la Ligue des Champions. Donc il y a l'expérience des années d'avant et puis oui, Enrique, il fait bien une différence entre ton état physique et ton envie. Parfois le corps et la tête ils fonctionnent pas au même rythme.
On zappe Dembélé, on va dans le foot français avec une information qu'on va expliquer et décrypter avec Nicolas Pelletier.
Salut les amis.
C'est le nouvel appel d'offres souhaité par la Ligue nationale de football sur les droits de télé. Alors, que signifie cette info, Nico? Est-ce qu'on peut déjà imaginer que l'avenir de Ligue 1 Plus ne tient qu'à un fil?
Oui, on se rapproche de la fin de Ligue 1 Plus, peut-être à la fin de cette saison, peut-être à la fin de la saison prochaine. Hier soir, très tard, la Ligue a confirmé l'information qu'on expliquait sur notre site internet dans la journée d'hier avec le lancement d'un appel d'offres pour les prochaines semaines. L'objectif pour la LFP est de trouver un diffuseur capable d'apporter un minimum garanti aux clubs de Ligue 1 qui sont dans une situation financière catastrophique et qui ont vendu autour du milliard d'euros pendant ce mercato estival. Et ce ne sont pas les 1,1 million d'abonnés en moyenne à Ligue 1 Plus qui permettent aux 18 clubs de l'élite de sauver leurs finances. Depuis plusieurs jours, la Ligue fait donc le tour des diffuseurs. Elle affirme que des candidats potentiels sont intéressés par ce produit, mais entre les marques d'intérêt et fournir un montant lors d'un appel d'offres, la marche est assez grande. Si l'appel d'offres est déclaré infructueux dans les prochaines semaines, alors la Ligue pourra négocier de gré à gré avec les diffuseurs. Une donnée importante, c'est que la Ligue peut vendre toute la Ligue 1 en un seul lot, c'est-à-dire les 9 affiches pour un même diffuseur.
Alors, ça veut dire quand même qu'ils estiment qu'avec un appel d'offres même faible, même une offre faible, ça sera toujours mieux que ce que rapporte Ligue 1 Plus, hein, si on comprend bien.
Exactement.
Actuellement.
Exactement.
Et du coup, la diffusion de la Ligue 1 au-delà de la saison en cours, ce sera quoi?
LFP Média, qui gère donc les droits, aimerait voir une bataille des géants du numérique pour son produit. La Ligue essaye d'attirer les plateformes, surtout Disney et Paramount, qui ont candidaté par exemple sur la Ligue des Champions en France. Les plateformes restent l'objectif donc prioritaire, mais il y a toujours deux inconnues dans l'équation de ces droits TV. Que va faire le duo Canal Plus beIN Sport? On ne sait pas. Toujours pas de nouvelles.
Si drague Disney et Paramount, c'est qu'il n'y a pas gros espoir.
Oui, mais peut-être. On verra la semaine prochaine. Il y a la conférence de presse de lancement des deux chaînes Canal Plus et beIN Sport. On verra peut-être qu'ils parleront de l'avenir de la Ligue 1. On ne sait pas si aussi d'autres acteurs qui sont déjà présents dans le monde du sport en France peuvent candidater à cet appel d'offres. Mais voilà, il y a vraiment des inconnus qui sont encore présentes dans ce dossier de l'appel d'offres. Mais Disney et Paramount sont quand même les deux candidats que la LFP aimerait voir diffuser sa chaîne ou la Ligue.
Donc on va encore changer de diffuseur.
Exactement.
Va falloir s'abonner à Disney Plus ou à Paramount.
Et au passage, l'info, 1,1 million d'abonnés,
alors
c'est très très
faible.
C'est
en moyenne sur la saison. Pendant la trêve, ils ont perdu énormément d'abonnés.
Ça veut dire qu'en termes d'exposition Ligue 1, même sur une affiche, il n'y a jamais plus d'un abonné sur deux devant la télé. C'est incroyable.
Tu peux avoir deux personnes avec le même abonnement. C'est pour ça que des fois, ils ont fait 1,9 million d'abonnés.
Mais ça reste très faible en termes d'exposition.
Eric, tu allais dire quelque chose?
Non. D'abord, j'ai une pensée pour tous nos potes qui bossent sur cette chaîne-là et qui ont beaucoup bougé ces derniers temps. Et c'est compliqué. On avait compris que c'était une solution de repli Ligue 1 Plus en attendant mieux. Voilà. Mais sauf que le mieux est facile aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, vu ce que ça rapporte. Écoute, on va faire confiance aux gens qui gèrent ce souci-là, mais en effet, le football français est en grande difficulté financière. Il faut quand même vite trouver une solution. Et là, un peu comme pour l'OM tout à l'heure, le problème, c'est que les diffuseurs, ils connaissent ça.
Oui, cet état des cher. Lieux.
Tu connais
et
le prix
donc,
maintenant.
Les mécènes, il y en a plus beaucoup, hein, même
ouais,
à la
mais
télé.
Il faut pas le voir à court terme, en fait. Parce que si tu vois à court terme pour essayer de vite remonter, le problème c'est que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que t'allais là où allait le vent, à chaque fois au plus offrant, mais tu t'installais pas sur la durée. Quand
c'est
tu
ça.
Vois ce que fait le rugby avec Canal+, sur la durée aujourd'hui, le rugby vaut, le top 14 vaut plus cher que la Ligue 1.
Ils ont redistribué 126 millions hier.
Surtout,
ce qui est absurde. Donc là, il va falloir faire un choix. intelligent qui s'inscrit sur la durée, parce que pour remonter et pour redonner de la fidélité, parce qu'aujourd'hui, pardon, hein, mais moi je regarde, je suis pas abonné à Ligue 1 Plus, mais je me vois tous les buts, je consomme du foot.
Tu triches.
Ben non, mais je consomme.
Sur les réseaux, t'as tout.
Ah oui, sur les réseaux, t'as tout, en fait. Moi, je consomme.
Ça, c'est un vrai sujet.
Mais c'est un vrai sujet. Donc, en fait, ça prend beaucoup de part de ton match de 90 minutes. Donc, moi, je consomme le foot comme ça. Et à force de consommer le foot comme ça, t'auras du mal à faire changer les habitudes et à revenir, à part le supporter du
sauf
club.
Sauf si tu mets un prix raisonnable, Sarah, c'est toujours pareil.
Oui, mais non, le prix raisonnable, il vaut moins cher. Dans un
c'est pas toi qui fixe le prix.
Oui, mais le prix, il est moins cher. Sauf qu'il s'intéresse pas au consommateur.
Il va falloir dire que ça va prendre des années. Eric avant de retrouver sa bonne place. Voilà.
Non, mais là encore, Pierrot, il faut assumer parce qu'on a vendu la main qui nous nourrissait. Exactement. Et donc maintenant, il faut assumer. Voilà.
C'est l'heure du journal moyen, deuxième édition sur RMC.
Le journal moyen avec quelques saucisses. Jérôme Bretagne sur un filière. Et Pierrot, tu as traqué Jérôme Bretagne, c'est pas beau. Oh. On devient totalement obsessionnel de la saucisse à l'antenne et on traque tout le monde. Il va falloir qu'on se remette en question, Pierrot. C'est pas très simple.
Remettez-vous parce que vous rigolez des fois pour rien.
Mais on va écouter.
On commence une phrase et on vous attend rifagner derrière parce que vous attendez la faute. Ça devient insupportable, moi. Ça devient insupportable.
C'est voilà. Le super Moscato Show, le journal moyen deuxième édition, tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le super Moscato Show sur RMC, 16h38, journal moyen deuxième édition.
La deuxième édition du journal moyen, l'histoire d'un ballon de foot qui vaut presque 3 millions d'euros. C'est cher, hein, pour un ballon de foot. Le retour du service après-vente, un petit cadeau laissé par Stephen Brun hier dans le Kikadi. Et puis, Sarza 55, première question du Kikadi du jour. Sans chacun pour soi, pour la première question. Je sais que Jérôme a bossé, Sarah elle bosse toujours. Sarah elle fait appel à l'IA pour travailler les Kikadi parfois.
Ah, non.
Ouais, ça alors, je demande à l'IA qu'est-ce qu'Adrien pourrait poser comme question selon l'actualité.
L'IA connaît Adrien.
Et bien sûr.
Bah, l'IA, elle écoute Adrien.
Il te dit quoi?
Bah, pour l'instant, ils ont pas.
Et est-ce que, est-ce que l'IA t'a dit qu'Adrien c'était envié du coup?
Non, l'IA est gentille.
Parce que sur WhatsApp,
l'IA est pas marseillaise déjà.
C'est le 2700.
Ah, il y a une IA marseillaise. Allez,
demain, je fais une question moyenne Marseille, d'accord?
C'est
le bah oui, oui.
C'est le club là.
2733e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
Direct live en plein milieu de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Service après-vente de Jérôme Rotten. Le passage antenne hier de Jérôme qui arrive hier dans le Moscato Show à 17h40 pour donner son programme. Et Pierrot, je pense que tu es atteint d'une maladie, je pense, et que tu deviens à l'affût. Tu es à l'affût du moindre dérapage à l'antenne. Tu écoutes trop de Didier Deschamps, trop de best-of de Didier. Tu surveilles Jérôme Rotten comme le lait sur le feu hier. Jérôme Rotten sur un fil. Alors c'est vrai qu'il était sur un fil. Tu lui fais bien remarquer. Écoutez bien la voix de Jérôme sur Olympique Lyonnais, sur l'OL.
À 18h, on lance le match de l'Olympique de Lyonnais demain face à Fenerbahçe.
Ah bah oui. Glisser là. Hein.
T'as vu, t'as failli glisser là.
Est-ce que c'est un sujet sensible ? Je sais pas si c'est pas son attitude et ce fait qu'il fait glisser finalement.
On peut écouter le.
C'est
hein,
lui qui le fait glisser. À mon avis, la VAR.
À 18h, on lance le match de l'Olympique de Lyonnais demain face à Fenerbahçe.
Ah bah oui. Glisser là. Hein.
C'est l'instituteur.
C'est trop sensible. Tu peux pas confondre l'OL et l'OM.
Non.
C'est bagarre direct.
Service après-vente du Kikadi d'hier. On cherchait le nom du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il est en 2026. Il s'appelle Édouard Geffrey. Proposition de Stephen Brun. Alors, je rappelle que la politique n'est pas sa spécialité. Donc, parfois, Steve, il a des noms qui lui arrivent ou il note et puis il balance comme ça. Écoutez,
entendu, ça m'a fait rire.
Pourquoi pas Stephen, mais c'est plus trop du tout dans l'actualité, je pense.
Il était dans les journaux ce matin, il était dans la Provence. Le ministre de l'enseignement.
Sa tête là, je vois sa tête.
Le ministre de l'Éducation nationale.
Oui, l'Éducation nationale.
Il s'appelle. Jacques Lang. C'est le ministre très polémique.
Bon Dieu.
Pierrot, tu l'as pas, c'est ta carte.
Si, je l'ai.
Voilà. Donc, Stephen Brun proposait Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale. Il l'a déjà été d'ailleurs, mais bon, là, je pense pas que ce soit dans les projets.
Je sais pas ce que tu
es sûr qu'il soit sur les listes.
Déjà, il est corps libre, c'est bien déjà.
Édito d'Éric
Non mais il y a des ça fait longtemps. Casserole qui va falloir.
Ah oui, oui, bah les affaires sont en cours, hein,
comme on dit. Hein. Oui, à un moment donné quand même.
Tu le surveilles celui-là aussi.
Voilà, celui-là on va le
surveiller. Steve, il joue au tennis ou pas casserole.
Mais là, c'est pas là, moi, je suis pas le seul à le surveiller, celui-là, je le dis.
Tendez-vous ton enquête sur Manuel Valls, Eric.
Écoute, je pense qu'il a eu peur et il fait profit bas là. Je pense qu'il est tenu, fait profit bas.
Il n'est même pas candidat aux primaires ou quoi que ce soit là. Ça y est,
il n'en veut plus du mastic.
Pourtant, je pense qu'il y aura un élan pour lui. Sans transition, on parle d'un ballon de foot qui vaut très très cher, mais c'est normal.
Maradona, la media luna, tiro, gol.
Ce ballon, c'est le ballon avec lequel Diego Maradona avait marqué peut-être le but le plus célèbre de l'histoire du foot, but marqué de la main face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde en 1986, Coupe du Monde au Mexique, vente organisée par la maison américaine de vente aux enchères Heritage Auction à Dallas, au Texas, c'était samedi soir, et le ballon est parti pour 2,8 millions d'euros. C'est un objet d'histoire du foot, d'histoire tout court.
Je suis pas étonné sur le prix, m'étonne, c'est qu'il n'ait pas été mis en vente avant.
Attends, mais l'histoire est dingue.
Il avait été
récupéré. Attends, ce ballon, mais moi je savais pas, j'ai découvert ça. Il avait été récupéré le jour du match, coup de sifflet final, par Ali Benasser, qui était l'arbitre tunisien.
Et depuis, il a gardé le ballon.
Non, 36 ans plus tard, il avait cédé à l'occasion d'une vente aux enchères organisée en novembre 2022. Ouais. Ça lui avait rapporté lui à l'époque. Moi, je trouve ça même un peu limite quand même, parce que c'est quand même une énorme erreur d'arbitrage à la base, hein, cette histoire. Il avait gagné 2 millions de livres, 2,3 millions quand d'euros, l'arbitre qui avait arbitré ce match. Et là, donc, le nouveau propriétaire l'a remis en vente. Et il a gagné 2,8
millions. L'histoire dit qu'il était tellement content de l'avoir acheté qu'ils se sont mis une carlingue à la suite de l'achat et ils ont joué au foot avec sur le parking en
Ils l'ont perdu. Ce qui est dingue, alors c'est pas totalement de sa faute, mais l'arbitre est quand même à l'origine d'une erreur incroyable. Oui. Tout le monde voit la main à part l'arbitre.
Celui où tu es placé.
Jean-Michel Larquet, dans la tribune, la voit
Mais.
Que c'est le ballon.
Ah, ben il y a des authentifications, il y a des spécialistes qui authentifient les objets.
C'est une vraie question. Les objets de vente aux enchères, c'est.
Des analyses et tout. Enfin,
j'en ai vendu des maillots authentiques. Hein.
De quoi? Des tiens. Il n'y a pas besoin d'identifier.
Il y a pas beaucoup de maillots jaunes.
Les authentifier, pardon.
Mais ça aussi, on les reconnaissait à l'odeur, les maillots de Vincent.
Donc, un arbitre, grâce à une erreur la plus célèbre du monde, s'est fait 2 millions il y a quelques années. 2 millions,
Ça devient des objets mythiques. Parce qu'ils ont fait l'histoire, voilà.
Ouais, bon. Quand c'était anglais, tu te dis bon, bravo quand même. Pierrot, c'est ton cadeau toute la semaine, c'est un feuilleton, puisque Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur.
Attention, parce que les deux premiers jours, Suzanne a mis la barre très haut.
Oh, là, c'est encore
J'espère que ça va être à la hauteur.
Non, mais là, il faut s'arrêter. Allez. Là. Ça va s'arrêter à un moment donné.
C'est la semaine de la rentrée. Jingle, ah. Didier.
Non plus.
Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché.
Donc Didier Deschamps n'est plus sélectionneur d'équipe de France et comme on n'était pas là nous le Moscato Show pendant toute la Coupe du Monde, Suzanne Folly, notre réalisatrice, qui est une sorte de sorcière radiophonique, nous a produit le best-of de Didier, ses dernières conférences de presse pendant la Coupe du Monde. Donc du coup voilà Pierrot, c'est un cadeau pour toi, il y en a jusqu'à vendredi, après on arrête.
C'est une semaine.
On va fermer cette.
C'est moins long que la tournée d'adieu de Gaël Monfils.
On va clore ces 14 ans de Didier Deschamps. C'est parti, Didier, la Coupe du Monde, les dernières conférences de presse, Pierrot, c'est pour toi.
Non es un momento muy feliz, pero... J'ai terminé dans le versière en leur disant ça aussi. 25 ans dans une vie d'un homme ou d'une femme. Après, il y a évaluation des risques. Et face à un adversaire qui joue un vrai match. Je sais pas, après, c'est toujours dur de... Sobre todo, momentos distintos, los jugadores más importantes. Catastrophique, après, avec l'orgueil et la fierté, on n'est pas assez loin de renverser une situation. D'autres ingrédients, malgré tout, je suis très friard de l'avenir. Devrait être radieux pour eux.
Comment tu l'expliques? C'est juste la...
Des instances d'explication, comment je l'explique? Entre son match aller contre le Paris Saint-Germain et le match retour. Je vais vous reprendre un exemple. Upamecano, aujourd'hui, c'est tout le... le malheur que je vous souhaite, même si moi j'entraînerai pas encore, puisque c'est difficile, hein, on va pas se plaindre. Il y en a combien qui sont rentrés?
Non, mais là c'est trop.
Ouais.
Ça va, Eric?
Moi, ça me fait pas rire, je suis désolé.
La dernière phrase des trois buts.
Non, mais tu sais, c'est
ça
mal.
Ça me fait pas plaisir.
Non, mais c'est mal, moi j'arrête. Mais c'est comme dans les feux d'artifice, t'as le bouquet final, tu sais, ça c'est la fin.
Non, mais à un moment donné, ça, moi je trouve que l'acharnement, c'est bien la rigolade, mais l'acharnement, je trouve que c'est indigne de gens civilisés, quoi, tu vois.
Que l'acharnement.
Ouais.
On rigole bien. Alors, si vous êtes fan, si vous êtes client, bah, vous les retrouvez soit sur les réseaux sociaux, donc notamment le compte du Super Moscato Show sur Twitter ou en podcast, évidemment.
T'es content?
Non, mais c'était très bien.
Très bien,
hein.
Okay, voilà.
Bah, il te reste encore 3 jours.
Il y a une belle montée en puissance.
2 jours, il te reste.
Pierrot est content, mais on est content. 16h56, on est en retard. 16h, même là, 57, tout pile. La première citation du Kikadi du jour. Est-ce que vous êtes prêts?
Prêt, allez.
Ça,
non, je suis déprimé, moi, quand je.
Kikadi. J'ai tellement d'années de karting qu'on y revient assez naturellement. Verstappen. Max Verstappen va défier le 15 septembre.
100 pilotes, c'est ça?
100 pilotes amateurs de karting. Et il va essayer de tous les taper sur le circuit de Silverstone. Parce qu'il a peur de rien, Verstappen. Il est bon au karting, je pense, celui-là.
Ouais. Le premier point, Jérôme Pinault, le cadeau, un séjour dans le Tarn et Garonne au domaine du Belvédère. Kikadi par SMS au 7-32-16. Et l'Olympique Lyonnais après les infos. L'avenir est-il rose à l'OL? À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.